Il est 18h.
RJB Info.
Le journal Martha Duarte.
Bonsoir. Bien Enido exige des améliorations pour la branche ouest de la 5. Malgré leur soutien au projet, les deux communes ont fait opposition. La cité célandaise veut être plus impliquée dans le processus de construction du contournement. Un oui, le 18 juin nuirait fortement à l'hôpital de Moutier. Le conseil d'administration de l'HJB s'est montré très inquiet aujourd'hui. Selon lui, un rattachement de la ville au canton du Jura pourrait avoir des conséquences catastrophiques. L'un des mythiques visages de James Bond s'est éteint. Roger Moore est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 89 ans. L'acteur britannique a revêtu le costume du célèbre 007 à 7 reprises. Le soleil nous accompagnera demain malgré quelques nuages bas le matin et le développement de petits cumulus l'après-midi. Les températures s'annoncent assez chaudes, jusqu'à 23 degrés au maximum. Bien Enido souhaite voir le projet de la branche ouest de l'autoroute A5 amélioré. Malgré le soutien affiché par les deux communes, elles ont fait opposition. Le délai de mise à l'enquête publique est arrivé à échéance aujourd'hui. À cette occasion, la ville de Bien a présenté le document long de 57 pages qu'elle a fait parvenir au département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication à Berne. Les requêtes de la cité célandaise peuvent se distinguer en deux phases. Le maire de Bien, Eric Fer.
Une phase, c'est la phase de chantier pendant 15 ans, pas toujours aux mêmes endroits, mais pendant 15 ans, donc quand on est dans un périmètre relativement restreint, il y aura beaucoup de détails à régler, aussi réagir à des effets qu'on ne prévoit pas maintenant. Et c'est notre territoire communal, donc nous voulons avoir de l'influence là-dessus, nous devons ça à notre population. Et l'autre élément, c'est la phase après la mise en service de la branche ouest, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une gestion unilatérale du trafic par les responsables autoroutiers qui règle ça au mieux pour leurs besoins et qui travaillent un peu selon le principe après-mal déluge et reportent des problèmes sur notre réseau routier local qui après, par exemple, pourrait péjorer la situation pour piétons, cyclistes ou transport public. C'est pour ça que nous voulons un système coordonné ou un travail à pied égal.
Plusieurs associations ont par ailleurs fait opposition au projet définitif de la branche ouest de la 5. Parmi elles, on retrouve notamment ProVélo, ProNatura, le VVF, l'ATE et l'association Mobilité piétonne suisse. L'éventualité d'un oui le 18 juin à Moutier fait frissonner les dirigeants de l'hôpital du Jura bernois. Le conseil d'administration a réuni la presse ce matin sur son site prévotois pour éclaircir la situation à moins d'un mois du vote communaliste. Ses membres ont souligné les conséquences néfastes que pourrait avoir un rattachement au canton du Jura pour la pérennité de l'hôpital du Jura bernois. Selon le président de l'HJB, c'est seulement le cas de figure du oui qui mettrait fortement à mal l'avenir du site de Moutier.
En cas de non, disons-le franchement, nous avons les coudées franches pour avancer dans notre politique de stratégie 2025, qui est déjà pour 80% accomplie, alors que d'un autre côté, on est dans un flou artistique, on nous promet beaucoup, mais on sait que par rapport à la Lamal, par rapport à la stratégie 2025 de l'hôpital du Jura, on a peu de chances de conserver à 15 km de distance deux sites de soins aigus. C'est vraiment ce qui nous provoque des craintes.
Par souci de transparence et pour éviter toute mauvaise interprétation de ces déclarations, le conseil d'administration de l'hôpital du Jura bernois a tenu à exprimer ses peurs et clarifier la situation face aux médias ce matin. En revanche, à moins d'un mois du vote, son président n'attend plus aucune garantie de la part des autorités jurassiennes. On réécoute Anthony Picard.
Je pense que le temps des promesses est terminé. Il aurait fallu, je pense, mettre le sujet HJB au centre des préoccupations, puisqu'on le sait, dans la population, également dans le Jura bernois, l'hôpital est un sujet pointu, est un sujet sensible, est un sujet brûlant. Je pense que maintenant, c'est trop tard, puisque les promesses doivent faire place à des actes, et les actes auraient dû être commis précédemment avec un projet de décret, par exemple, des autorités jurassiennes.
Et suite à cette conférence de presse extraordinaire de l'HJB ce matin, nous avons fait réagir le président du conseil d'administration de l'hôpital du Jura. Selon Philippe Receveur, la rédaction d'un tel projet de décret n'aurait pas été opportun.
Il aurait reproché, je pense avec raison, aux Jurassiens d'avoir décidé tout seul de son côté de ce qui est bon pour Moutier dans l'hypothèse d'une entrée dans le canton du Jura. Vous savez, la démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Et plus particulièrement, quand on prend des choix, il faut y associer les personnes concernées. Je pense que le gouvernement jurassien et le Parlement, parce que dans le Jura, c'est le Parlement qui s'est avancé, contrairement au canton de Berne, où le Grand Conseil n'a pas daigné se saisir de cet objet. Lorsqu'il s'avance pour dire ce qu'il va faire, on peut le croire. Le contraire s'apparente à un déni de démocratie. Je crois que ça n'a pas vraiment sa place en Suisse.
On voit que c'est un sujet sensible, brûlant. Est-ce que dans la campagne du dans le canton du Jura, est-ce qu'on n'aurait pas minimisé un peu cet aspect des hôpitaux ?
Je ne le crois pas. Nous considérons l'importance du dossier hospitalier d'une manière générale, mais nous n'avons pas voulu en faire une surmédiatisation, une surreprésentation. Encore une fois, le vote sur l'avenir institutionnel de la commune de Moutier n'est pas un référendum sur la distribution des sites de la JB, au contraire. Et puis, dire d'un côté que le temps des promesses est révolu, puis lorsque l'on s'avance pour dire ce que l'on souhaite faire, nous dire de toute façon on ne vous croit pas, ça signifie que pour l'instant, et peut-être ça peut se comprendre, dans une campagne de vote, il n'y a pas la place du côté de nos vis-à-vis pour entendre des arguments constructifs, mais je suis persuadé qu'après le vote, la sérénité reviendra et le besoin de travailler ensemble va à nouveau s'imposer à tout le monde dans un contexte qui est celui de la réalité et non pas de projection où on joue à se faire peur.
Un dossier signé Audrey Fasnacht et Natacha Mengoli. L'hôpital du Jura bernois a par ailleurs reçu ce matin sa première IRM sur son site de Moutier. L'appareil de 7 tonnes a été livré au moyen d'une grue. Un trou a été fait dans la terrasse et le plafond de l'étage A afin de déposer directement la machine à l'intérieur de l'Institut de radiologie. Une vidéo de l'installation est à voir sur rjb.ch. L'industrie 4.0 et l'Internet des objets se font une place dans le Seeland. La Swiss Smart Factory, littéralement usine intelligente suisse, a été inaugurée ce matin à Ipsar, près de Bienne, devant 120 invités. La structure a pour but de développer la digitalisation de l'industrie, mais aussi de la faire connaître aux petites et moyennes entreprises. En clair, il s'agit de se servir des nouvelles technologies pour optimiser la production, notamment en connectant machines clients et fournisseurs entre eux. Pour Denis Grisel, directeur de la promotion économique bernoise, les entrepreneurs suisses sont parfois encore trop prudents face à la révolution qui s'annonce.
Je dirais les grandes entreprises qui, elles, en fait, sont sensibilisées et travaillent sur ce domaine, mais on se rend compte que dans les PME, il y en a un certain nombre qui ont déjà fait un certain nombre de pas, mais il y a une certaine frilosité. D'ailleurs, une étude de Suisse même qui a été faite en Suisse démontre ce fait. Et le but vraiment avec cette première plateforme suisse, on peut le dire, on est vraiment des pionniers ici, cette première plateforme devrait permettre aux entreprises de la région de se familiariser avec ces nouvelles techniques qui seront incontournables à l'avenir. On l'a entendu ce matin, le jour où une grande entreprise va chercher des sous-traitants, elle va progressivement sélectionner celles qui sont déjà en fait équipées de cette technologie parce que la communication entre eux sera plus facile et ça deviendra un standard. Et je crois que c'est le moment vraiment de se bouger, je dirais, et de tirer profit de cette plateforme.
La Swiss Smart Factory devrait à terme déménager dans le parc suisse d'innovation qui doit être construit à Bienne. Un motard s'est blessé dans un accident individuel aujourd'hui. Les faits se sont produits aux alentours de 16h entre Le Fuet et Bellay. L'homme a chuté pour une raison encore indéterminée. Il a été légèrement blessé et a été transporté à l'hôpital en ambulance. La circulation a été légèrement perturbée, mais la route n'a pas été fermée. La plage des Six Pompes façon palmier et flamant rose, c'est l'oiseau choisi par les organisateurs du Festival international des arts de la rue de La Chaux-de-Fonds pour illustrer sa 24e édition. La plage aura lieu cette année du 30 juillet au 5 août dans les rues de la métropole horlogère avec près de 50 compagnies de Suisse mais aussi de la Nouvelle-Calédonie et de Finlande. Rien n'a été facile cette année pour boucler la programmation selon les organisateurs. La faute à d'autres festivals en France et en Belgique qui ont lieu en même temps et qui programment les artistes avec des cachets fixes. Le festival Chaux-de-Fonds reste, lui, fidèle à la rétribution au chapeau. Pour le programmateur de la manifestation, l'arrivée des arts de la rue dans les festivals de musique suisse ne constitue pas une concurrence. Manu Moser.
plus il y a de programmation en art de rue, plus on a de chances d'être reconnu et que les arts de la rue deviennent importants. Je ne pense pas qu'on ait de concurrence. C'est le cas en musique, hein, si vous faites venir un Johnny Hallyday quelque part, c'est difficile de faire jouer 10 km plus loin. Par contre, si vous faites venir la compagnie de la Toupine à la Chaux-de-Fonds, ils peuvent jouer au Loc, personne ne sait qui c'est. Par contre, effectivement, ben, y a des contrats, certains festivals qui ont des vrais très gros moyens, liés au fait que c'est des festivals avec des entrées payantes à 50, 70 balles, fait qu'ils ont des ressources nécessaires très rapidement pour pouvoir engager les arts de la rue. Je pense au Paléo notamment. Et effectivement, c'est le petit danger d'être un festival sans entrée, un festival gratuit. Beaucoup de gens nous avaient dit qu'il fallait qu'on fasse un festival payant, mais ça n'a aucun sens. Ouais, c'est un danger, mais je me réjouis plutôt de voir que tous les autres festivals ont décidé de nous copier. Moi, je trouve ça plutôt sympa de me dire que dans le canton de Neuchâtel, on a le Buskers de Neuchâtel. Bon, ils sont plus vieux que nous. Il y a Festineuche, il y a les Orlefolies. On voit apparaître du théâtre de rue à la fête de mai. On voit que l'ABC fait des projections de cinéma dans la rue. Enfin, il me semble qu'il y en a dans tous les coins. C'est sympa.
Le festival a aussi nommé un nouveau duo à sa direction. Manu Moser s'occupera des aspects artistiques. Le domaine administratif revient à Marc Jorsan. Ce Parisien a notamment passé par le théâtre populaire roman comme chargé de communication. Les parlementaires sont plutôt satisfaits de leur rémunération. Il ressort d'une étude de l'Université de Genève, publiée ce matin, que 3/4 des élus fédéraux jugent appropriées les indemnités qui leur sont versées pour leur activité politique. Si l'on peut chiffrer le coût total du Parlement, un peu plus de 37 millions de francs par an, évaluer le salaire d'un élu est par contre malaisé. Pascal Sciarini, responsable de l'étude.
C'est un système qui permet en fait à chaque parlementaire de s'adapter à sa propre situation. Mais c'est vrai que du coup, ça conduit à des résultats extrêmement différents d'un parlementaire à l'autre. On a été frappé de voir que, en termes de revenus, on a un revenu parlementaire médian aller de 60 000 francs. Mais là, c'est du médian et en fait, on a des personnes qui touchent peut-être 30 000 et d'autres qui touchent 100 000 en fonction de si elles engagent ou pas un collaborateur et de combien de commissions elles font partie, etc., etc.
La charge varie également compte tenu du travail à Berne et des représentations. Le taux d'occupation médian atteint 87% pour un conseiller national, Jean-Luc Adore, UDC Valaisan.
Maintenant, il faut quand même se rendre compte que les chiffres ont été établis en tablant sur un horaire ordinaire. Alors on peut attendre aussi bien de gens qui s'engagent dans le privé que des parlementaires qui s'engagent pour le bien public, qui travaillent un peu plus que 42 ou 48 heures par semaine. C'est le cas, je crois, de l'immense majorité de mes collègues, ce qui fait que ces chiffres me semblent un peu surévalués.
Cette étude donne pour la première fois une vue d'ensemble de la question des indemnités des élus que certains parlementaires veulent réévaluer. L'acteur britannique Roger Moore s'est éteint en Suisse des suites d'un cancer. C'est ce qu'a annoncé sa famille dans un communiqué aujourd'hui. Il avait 89 ans. Myriam Wittwer.
My name's Bond. James Bond.
Si Roger Moore est un des acteurs les plus mythiques à avoir prêté ses traits à James Bond, c'était déjà une star quand il a enfilé le costume de l'espion le plus sexy du Royaume-Uni. Né à Stockwell, près de Londres, le 14 octobre 1927, Roger Moore s'est fait un nom à la télévision dès la fin des années 50, grâce notamment à la série Ivanhoé. Il accède au statut de star internationale en incarnant Simon Templar dans la série Le Saint de 1962 à 1969. En 1971, Roger Moore devient l'acteur le mieux payé de la télévision avec son rôle de Brett Sinclair dans Amicalement Vôtre face à Tony Curtis. Si la série ne dure que le temps d'une saison, elle et son générique sont restés dans les mémoires. C'est en 1973 qu'il succède à Sean Connery dans La peau de James Bond, un rôle qu'il endossera à 7 reprises en 10 ans. Roger Moore est devenu ambassadeur de l'UNICEF pour les droits de l'enfant en 1991, un engagement qui lui vaut d'être anobli en 2003.
But James, I need you.
So does England.
Les messages de soutien se multiplient en Grande-Bretagne après l'attentat qui a fait 22 morts hier soir à Manchester. La première ministre Theresa May a dénoncé un attentat terroriste qui visait délibérément des enfants. L'explosion a retenti durant un concert d'Ariana Grande, idole des enfants et des adolescentes. L'État islamique a revendiqué l'attentat cet après-midi. De son côté, la police britannique a annoncé avoir arrêté un homme de 23 ans suspecté d'avoir un lien avec le drame.
Vous êtes sur RJB, il est 18h14.
sport.
Vladimir Petkovic mise sur la jeunesse. Le coach de l'équipe de Suisse de football a retenu pas moins de 6 néophytes en vue du stage d'entraînement qui se déroule dès demain et jusqu'à vendredi à Neuchâtel. En réalité, Vladimir Petkovic ne dispose pas de l'ensemble de ses sélectionnés habituels. Ceux-ci sont encore retenus avec leur club. Pour les remplacer, le coach national a donc choisi des joueurs en devenir qui sont pour la plupart inconnus du grand public. L'analyse de Marcel Neuenschwander.
Ils se nomment Gregor Kobel, Ulysse Garcia, Anton Gritsch, Djibril Sow, Florent Andoriona et Léo Lacroix. Mais qui sont-ils ? Seul Léo Lacroix est bien connu en Suisse. Porteur de la double nationalité helvético-brésilienne, cet ancien junior vaudois a fait les beaux jours du FC Sion durant 4 saisons avant de rejoindre Saint-Étienne cet été où il joue régulièrement. Les 5 autres ont tous un point commun, ils tentent de faire leur trou en Bundesliga. Florent Andoriunas a régulièrement été aligné avec Ingolstadt, club qui vient de connaître la relégation en 2e division allemande. Ulysse Garcia, lui, a souvent occupé le banc des remplaçants du côté de Werder Bremen. Un latéral doté d'un excellent pied gauche, souligne Gérard Castella, l'entraîneur national des M20. Mais cet ancien junior genevois, Ulysse Garcia donc, n'a pas encore l'étoffe d'un titulaire. Les autres se cherchent encore, mais ils sont aussi jeunes, comme le gardien Gregor Kobel, près de 2 mètres sous la toise, même pas 20 ans. 20 ans aussi pour les arrières centraux, Djibril Sow et Otto Gritsch, 3 joueurs du bassin zurichois. Tous ont certainement du potentiel, de là à dire qu'ils vont exploser en équipe nationale, il y a un pas qu'aucun expert ne désire franchir, à l'heure aussi où un autre jeune fera son retour avec la Nati après sa grave blessure à la cheville, il s'agit de Brel Embolo.
Merci beaucoup Martha Duarte, on prend des nouvelles du ciel. Et pour ce soir, certains nuages resteront tenaces et des averses sont encore possibles, principalement dans le Jura en dessous. Pas de soucis, pas de pluie. Demain, nous nous réveillerons sous les derniers cumulus. Dans les hauteurs, encore une fois, la plaine verra très vite le soleil. Il deviendra ensuite dominant à toutes les altitudes durant l'après-midi. À noter que le ciel se voilera à nouveau en fin de journée. Concernant les températures, Météo News annonce des normes de saison, agréables dès la matinée, hein, entre 11 et 15 degrés. Pour les maximales, le mercure devrait atteindre 19 degrés dans les Franches-Montagnes, 21 degrés dans les vallons du Jura-Bernois, 22 degrés entre Moutier et Delémont, maximum 23 degrés autour du lac de Bienne. Jeudi, de son côté, sera encore clair et doux et ça se réchauffe encore ce week-end qui s'annonce estival.